ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.
Chers auditeurs de Radio B, je vous salue. Et pour ne pas faillir à la coutume, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2024. Je réserve les moins bons à 2025. Il ne restera que les pires pour 2026. Bon, je ne vais pas jouer l'oiseau de mauvais augure. Je n'ai évidemment rien contre le fait qu'on se donne régulièrement l'illusion que l'année nouvelle apportera paix, bonheur et prospérité. Après tout, ça ne mange pas de pain. Mais plus simplement, réjouissons-nous d'être en vie, de rester sensible à toute forme de grâce. Notons au passage que la grâce sera le thème du Printemps des Poètes 2024 en mars prochain et nous aurons l'occasion d'y revenir dans cette émission. Donc, laissons-nous toucher par la grâce, celle d'un paysage, d'un instant, d'un regard, d'un élan ou encore d'un poème lorsqu'il déchire la grisaille du quotidien et nous émeut. Et c'est justement d'un homme revendiquant l'importance de l'émotion en art que j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, une importance qu'il résumait par ces mots. Être ému, c'est respirer avec le cœur. Un homme qui a été considéré à juste titre comme le plus grand poète français dans les années 20, il y a tout juste un siècle, et qui semble avoir été un peu oublié depuis. Il s'agit de Pierre Reverdy. Et moi qui ne le connaissais qu'à travers quelques textes glanés ici ou là, j'ai eu envie d'en savoir plus sur son œuvre et sur son rôle dans l'univers artistique du début du XXe siècle. Voilà pourquoi je me suis procuré une anthologie réunissant des poèmes de Pierre Reverdy provenant de différents recueils écrits entre 1915 et 1960. Cette anthologie a été publiée en 1989 à l'occasion du centenaire de la naissance du poète dans la collection Orphée des éditions La Différence, avec une préface de Gilles Jouannard à laquelle j'emprunterai certains passages. Et je vais aussi me référer à l'analyse proposée par un autre Gilles, Gilles Presnitzer, sur le site Esprit Nomade, que j'ai déjà mentionné dans de précédentes émissions, et qui recèle une mine d'informations sur la poésie, la littérature, mais aussi sur la musique, les arts plastiques, le cinéma et même les sciences. Revenons à Pierre Reverdy, dont voici un premier poème qui apparaît justement sur le site Esprit Nomade. Tard dans la vie, je suis dur, je suis tendre, et j'ai perdu mon temps à rêver sans dormir, à dormir en marchant. Partout où j'ai passé, j'ai trouvé mon absence. Je ne suis nulle part. Excepté le néant, je porte accroché au plus haut des entrailles, à la place où la foudre a frappé trop souvent, un cœur où chaque mot a laissé son entaille et d'où ma vie s'égoutte au moindre mouvement.
Thank you.
Le morceau que vous venez d'entendre fait partie d'un album intitulé « 12 » du compositeur contemporain japonais Ryuichi Sakamoto, connu surtout pour ses musiques de films, dont pour les plus célèbres « Furio » et « Le dernier empereur ». Quel rapport avec Reverdy, me direz-vous ? Aucun, si ce n'est que, ayant vu récemment le film du réalisateur japonais Hirokazu Koreeda, qui s'appelle « L'innocence », j'ai été touchée d'abord par le film lui-même, mais aussi par la musique de Sakamoto, qui fut sa dernière œuvre, puisqu'il est mort en mars 2023. Et d'ailleurs, Koreeda lui dédie le film sorti en novembre dernier. Donc, les morceaux que vous allez entendre au cours de l'émission font partie de ces trois albums, « Playing the Piano », sorti en 2021, puis « 12 » et « Monster », sortis tous deux en 2023, « Monster » étant le titre du film à l'origine qui est devenu « L'innocence » dans le circuit de distribution français. La sobriété et la densité de cette musique m'ont paru convenir pour accompagner les poèmes de Reverdy qui ne sont sans doute pas faciles d'accès, car ils recèlent une grande part de mystère, et c'est justement ce que leur auteur revendique quand il affirme que, je cite, « rien ne vaut d'être dit en poésie que l'indicible ». C'est pourquoi l'on compte beaucoup sur ce qui se passe entre les lignes. Il dit aussi que la faculté majeure du poète est de créer une émotion grâce à des rapprochements imprévus. Gilles Presnitzer, lui, dit de ses poèmes, je le cite également, qu'il faut les deviner, passer par leur ambiguïté, leur flaque de silence et de verre, leur tourbillon d'ombre, leur musique d'ombre. L'univers de Reverdy est un univers mouvant, incertain. Il faut savoir s'y perdre, se chercher dans ses déchirures, ses signes énigmatiques. Il met les mots à la suite comme un tas de pierres. Il continue à tenir debout, malgré tous les vents du temps. En exergue de la préface de l'anthologie, on trouve aussi cette phrase de Reverdy. Écrire n'a jamais été pour moi qu'un pis-aller. J'aurais tellement préféré vivre dans le réel. Répondant à un éditeur qui lui demandait sa biographie, Pierre Reverdy laissa tomber ces cinq lignes couperets. Né le, point de suspension, mort le, point de suspension, il n'y a pas d'événement. Il n'y a pas de date. C'est merveilleux. Des êtres vagues. Une honte trop grande a relevé mon front. Je me suis débarrassée de ces encombrantes guenilles et j'attends. Vous attendez aussi, mais je ne sais plus quoi. Pourvu que quelque chose arrive, tous les yeux s'allument aux fenêtres, toute la jalousie de nos rivaux recule au seuil des portes. Pourtant, s'il n'allait rien venir. À présent, je passe entre les deux trottoirs. Je suis seule avec le vent qui m'accompagne en se moquant de moi. Comment fuir ailleurs que dans la nuit ? Mais la table et la lampe sont là, qui m'attendent. Et tout le reste est mort de rage sous la porte. Timidité. Après un voyage trop long et des insomnies prolongées, seule la plus grande joie vient attendre. Sans aucune certitude ni garantie, avec tous les efforts, seulement permis et promis, tu n'es plus seule et prêt à marcher n'importe où. Le monde te confie sa force en échange de ta confiance. Tu ferais toutes les démarches si l'aplomb avait payé ton sort à ta naissance. Mais qui t'a mis cette hésitation poignante dans le ventre. Tes jambes n'auront jamais la force de ton énorme poids. Sur le palier, plus haut que les marches, qu'il n'a pas su compter, il hésite. Et plus heureux qu'après une grande victoire, il redescend sans avoir seulement effleuré de sa main lâche le cordon auquel il aurait plutôt pendu son cou. Les deux poèmes que vous avez entendus proviennent du premier recueil de Pierre Reverdy, « Poèmes en prose », édité en 1915. L'année suivante, en 1916, paraît « La lucarne ovale ». En voici deux extraits à l'opposé l'un de l'autre. Pour le moment, la vie est simple et gaie. Le soleil clair teinte avec un bruit doux. Le son des cloches s'est calmé. Ce matin, la lumière traverse tout. Ma tête est une rampe allumée et la chambre où j'habite est enfin éclairée. Un seul rayon suffit, un seul éclat de rire. Ma joie qui secoue la maison retient ceux qui voudraient mourir par les notes de sa chanson. Je chante faux, ah que c'est drôle, ma bouche ouverte à tous les vents lance partout des notes folles qui sortent, je ne sais comment, pour voler vers d'autres oreilles. Entendez, je ne suis pas fou, je ris au bas de l'escalier, devant la porte grande ouverte, dans le soleil éparpillé, au mur parmi la ligne verte, et mes bras sont tendus vers vous. C'est aujourd'hui que je vous aime. Cœur à cœur. Enfin, me voilà debout. Je suis passé par là. Quelqu'un passe aussi par là, maintenant, comme moi, sans savoir où il va. Je tremblais. Au fond de la chambre, le mur était noir, et il tremblait aussi. Comment avais-je pu franchir le seuil de cette porte? On pourrait crier, personne n'entend. On pourrait pleurer, personne ne comprend. J'ai trouvé ton ombre. Dans l'obscurité, elle était plus douce que toi-même, autrefois. Elle était triste dans un coin. La mort t'a apporté cette tranquillité, mais tu parles encore, je voudrais te laisser. S'il venait seulement un peu d'air, si le dehors nous permettait encore d'y voir clair, on étouffe. Le plafond pèse sur ma tête et me repousse. Où vais-je me mettre? Où partir? Je n'ai pas assez de place pour mourir. Où vont les pas qui s'éloignent de moi et que j'entends là-bas, très loin? Nous sommes seuls, mon ombre et moi. La nuit descend. Même si Reverdy se plaisait à rester anonyme, il est important de donner quelques repères dans sa vie. Il naît à Narbonne en 1889. Il est déclaré né de père et de mère inconnus. Et c'est une sage-femme qui vient déclarer l'enfant à la mairie. En fait, sa mère était mariée, mais son époux, Victor Turcan, vivait en Argentine. Son vrai père, Henri-Pierre Reverdy, le reconnaîtra et lui donnera son nom, en 1895. Il va donc passer les 6 premières années de sa vie sans nom. Et il devra attendre sa 22e année pour être reconnu par sa mère en 1911. Vous admettrez qu'il y a de quoi douter de son identité et on comprend mieux, au vu de ces informations, sa réponse laconique à l'éditeur qui lui demandait sa biographie. Ce n'est qu'en 1897 que sa mère peut se remarier avec le père de Reverdy, viticulteur dans la Montagne Noire, au nord de Narbonne, et descendant d'une famille de tailleurs de pierre. Mais 3 ans après, en 1901, ses parents se séparent, Pierre reste avec son père, et c'est dans la propriété de son père, à Moussoulins, dans l'Aude, qu'il aiguise ses sens, son affectivité et sa mémoire. Il est alors un enfant heureux, vivant dans un lieu paradisiaque. Mais il se voit brutalement amputé de cette liberté lorsque son père, ruiné, doit vendre la propriété. Ces années de bonheur vont irriguer sa poésie, comme il le confie au poète Jean Rousselot plus tard, dans une de ses lettres. Près de Carcassonne, au pied de la montagne noire, le pays est boisé, plus frais, plus vert, délicieusement arrosé de cours d'eau qui cessent à peine d'être des torrents. La source est proche. Cette eau claire, nous en avons rêvé jour et nuit quand la propriété fut perdue. Et elle est dans une grande quantité de mes poèmes. On peut donc penser que les paysages de Moussoulins affleurent dans les textes que vous allez entendre maintenant, merveilleusement lus par Michel Bouquet, qui était alors invité d'une émission de France Culture sur Pierre Reverdy.
Le soleil rôdait encore autour de la maison quand on ouvrit la fenêtre. Les ivrognes sont toujours là, mais la chanson qui montait à la nuit a cessé. Maintenant, quelle voix m'appelle? Quelle douce voix appelle derrière le mur de droite, en riant? Les hommes sont là, endormis, et ce n'est pas la même bouche qui chante. Une femme au loin pousse un cri. Sur le bord du balcon, ses doigts dépassent, ils sont fins et pointus, et ce sont ses doigts que je regarde pendant qu'on m'appelle. De tous les champs, par tous les chemins, les gens arrivent en habit noir, en habit gris, et d'autres en bras de chemise. Une voiture remplit la route de poussière. La maison est bientôt pleine d'étrangers. Et comme personne ne chante, les hommes se sont réveillés. La pendule s'est arrêtée. Personne ne bouge. Comme sur les images, il n'y aura plus de nuit. C'est une vieille photographie sans cadre. La fenêtre. Un trou vivant où l'éclair bat, plein d'impatience. Le bruit a percé le silence. On ne sait plus si c'est la nuit. La maison tremble. Quel mystère. La voix qui chante va se taire. Nous étions plus près. Au-dessous, celui qui cherche. Plus grand que ce qu'il cherche. Et c'est tout. Soit, sous le ciel ouvert, fendu, un éclat où le souffle est resté, suspendu. Près du chemin ouvert et du bois sous la neige, la pointe qui soulève la nuit, la lampe veille sur le visage blanc, les paupières baissées, sur le mur découvert, les volets refermés, les ornières du sol se joignent, le pont plus près, les carrés tout autour, les formes, les objets, le mystère des portes. On franchit l'émotion qui barre le chemin, et sans se retourner, on va toujours plus loin. La maison ne suit pas, la maison nous regarde, entre deux arbres. Sa chevelure rouge et son front blanc. Le silence s'attarde.
Cette maison, qui ne suit pas celui qui s'en éloigne, on peut imaginer que c'est celle de son enfance, la propriété de la Boriau de Blanc, dans laquelle il a appris à se mettre à l'affût du monde, faisant de son existence, comme l'écrit Gilles Jouannard, l'occasion d'un apprentissage permanent du regard, raflant au passage objets, circonstances, instants, micro-événements, ultérieurement augmentés et surtout recomposés selon son ordre intérieur. Pour Pierre Reverdy, l'école, c'est le bagne. Et il arrête ses études à 16 ans. En 1910, il débarque à Paris, non pas pour faire de la littérature, mais avec l'idée d'être boxeur. Un ami à lui l'emmène aussitôt à Montmartre. Et dans le Montmartre de ces années-là, il y a le bateau Lavoir, repère de peintres et de poètes. Reverdy devient très vite ami avec ceux qui se retrouvent là, Apollinaire, Max Jacob, et les peintres Picasso, Gris, Braque, Derain, Matisse et Léger. Ce sont les débuts du cubisme. Et pour ses promoteurs, c'est une certaine façon de vivre, une insouciance, un goût pour l'inconnu. Et cet art nouveau qui révolutionne la peinture induit une nouvelle vision du monde, puisqu'il s'agit, pour les cubistes, de créer des œuvres qui ne cherchent pas à reproduire les choses de la vie. Et il en va de même pour la poésie, dont Pierre Reverdy dit ceci. Pierre Reverdy, qui sera, en matière de poésie, un autodidacte. On a souvent dit et répété que la poésie, comme la beauté, était en tout et qu'il suffisait de savoir l'y trouver. Eh bien non, ce n'est pas du tout mon avis. Tout au plus accorderais-je que la poésie n'étant nulle part, il s'agit de la mettre là où elle aura le plus de chances de pouvoir subsister. Mais aussi, une fois admise la nécessité pour l'homme de la mettre au monde, afin de supporter mieux la réalité, qui telle qu'elle est, ne se met pas toujours très complaisamment à notre portée. La poésie n'a pas besoin, pour aller à son but, de tel ou tel véhicule particulier. Il n'y a pas de mots plus poétiques que d'autres. Car la poésie n'est pas plus dans les mots que dans le coucher du soleil ou l'épanouissement splendide de l'aurore, pas plus dans la tristesse que dans la joie. Elle est dans ce que deviennent les mots atteignant l'âme humaine, quand ils ont transformé le coucher du soleil ou l'aurore, la tristesse ou la joie. Elle est dans la transmutation des choses opérée par la vertu des mots. Et les réactions qu'ils ont les uns sur les autres dans leurs arrangements, se répercutant dans l'esprit et sur la sensibilité. La jetée. Les étoiles sont derrière le mur. Dedans saute un cœur qui voudrait sortir. Aime le moment qui passe. À force ta mémoire, hélas, d'écouter des cadavres de bruit. Dans le silence, rien ne vit. Au fond de l'eau, l'image s'emprisonne. Au bord du ciel, une cloche qui sonne. Le voile est un morceau du port. La voile est un morceau du port qui se détache. Tu restes là. Tu regardes ce qui s'en va. Quelqu'un chante et tu ne comprends pas. La voix vient de plus haut. L'homme vient de plus loin. Tu voudrais respirer à peine et l'autre aspirerait le ciel tout d'une haleine. filet d'astres. La seule clé du ciel entre ces rochers blancs, c'est l'aigle, quand la lame de fer coupe la vague en deux. Ma main écrit ton nom sur la glace déserte. Un navire indécis navigue vers mes yeux. Les rayons du soleil tombent en lourdes tresses au bord du matin blanc. Et sur le sable fin, les pistes en détresse tournent à tous les vents. L'ombre silencieuse est humide autour de l'horizon et sous les rochers noirs où le poisson mourant joue sa dernière carte. Le côté blanc de notre espoir, dans l'émouvant et doux sillage de la barque, suit le trait d'union entre les continents dans le grelot d'azur, immense perle vide. Midi sonne au vibrant métal. Toutes les bouches plus avides se taisent au même signal, quand le chemin s'ouvre et s'anime au reflet dansant du falot, le chemin qui rampe et qui brille, le chemin secret plein d'échos, d'éclairs de lanternes et d'étoiles, de formes dans la vapeur d'eau, sur les têtes noyées sans rêve et sans mystère, les têtes détachées des astres sans halo. Paris prévu. Il y a parfois dans la ville ceux qui ne bougent plus entre les murs noircis comme des pages pleines. Le cadre illuminé passant sur les trottoirs, dans ce paysage parisien roux à l'heure où on n'allume pas encore les vitrines. Il y a tous ceux qui passent, feuilles et gens, sur le fond du jardin bien rangé sous le ciel, à droite les belles rues, à gauche le grand fleuve, ceux qui ne bougent pas et qui parlent sur la terrasse d'allée près de la balustrade noire aux reflets verts. La ville tourne autour de l'obélisque et la province regarde les images en relief et en couleur. Il y a au fond de l'air cette algue majuscule, cette tête nue sous les éclairs, cette figure précise, plus fine et plus réelle, qui se détache en clair sur le brouillard. Vous venez d'entendre trois poèmes qui apparaissent dans « Les ardoises du toit », paru en 1918 pour le premier, et « La guitare endormie », 1919 pour les deux suivants, avec toujours cette juxtaposition d'images, un sens qui se dérobe, un univers clos, parfois étouffant, avec beaucoup d'ombre et de silence, dans lequel on peut se perdre ou se trouver, exactement comme dans les tableaux cubistes qui donnent à voir une réalité décomposée et recomposée autrement, une réalité qui déroute le regard. Gilles Jouannard en parle dans sa préface de l'anthologie. Contre le discours logique de la perspective, Reverdy, comme Braque, brandit la logique de l'esprit, qui exerce depuis toujours sa liberté à capter dans l'instant la multiplicité des lignes de fuite, touillant avec gourmandise les ingrédients qui ne se contredisent qu'en termes de géométrie. Reverdy et Braque montrent le monde tel qu'on le voit à tout moment, de face, de profil et de dos, vu d'en bas et d'en haut à la fois. Pour Reverdy, la poésie a ses racines dans le destin de l'homme. Écoutez-le en parler avec sa voix rocailleuse de Narbonnais.
Non, la poésie n'est pas cette chose inutile et gratuite dont on pourrait si facilement se passer. Elle est au commencement de l'homme. Elle a ses racines dans son destin. Or, le destin sort de l'instinct et tout le développement de chaque espèce commence là. C'est ainsi que l'oiseau vole et que rampe le serpent. La poésie est un instinct de l'homme qui est précisément entre la reptation et le vol. Son instinct de créer, de s'élever au-dessus de sa condition qui le lie à la terre, mais seulement par la pointe du pied.
En 1917, Reverdy fonde la revue Nord-Sud, dans laquelle sont publiés ses poèmes, ainsi que ceux d'Apollinaire, de Max Jacob, puis d'autres auteurs par la suite. Soucieux d'expliquer les fondements d'une esthétique nouvelle, il écrit parallèlement à la poésie des textes sur l'esthétique du cubisme. Ce fut une revue à faible tirage et de courte durée, puisque ses numéros s'échelonnèrent entre mars 1917 et décembre 1918. Mais elle eut une grande importance en France et ailleurs. Elle accueillit les dadaïstes, puis les surréalistes. Et c'est dans Nord-Sud que débutèrent André Breton, Philippe Soupeau et Louis Aragon, qui a parlé de Reverdy en ces termes. « Il était, quand nous avions 20 ans, Soupeau, Breton, Éluard et moi, toute la pureté pour nous du monde, notre immédiat aîné, le poète exemplaire. » Le flot berceur, les rafles d'or sur le ravin des vagues, quand les feuillets de la mer se replient page par page, au bruit du vent et des portées des voiles. On commence à s'habituer à tous ces airs, à la couleur de l'eau, au mouvement des planches, au goût amer. Le phare a glissé ses ciseaux dans les draps de soleil et les bateaux s'en vont sur la mare. Le cabestan défait tourne et enroule le port que ronge un peu la nuit. On chante. Le sable est balayé. Les lumières du fond de la colline ou bien du casino, la voix de l'âme au couchant. Le soleil s'arrête comme un nid en feu dans les peupliers. Et la voiture grince au détour du chemin qui finit sous la haie. Le marais sec déteint. Les plantes sont plus rares et le train souligne la montagne en la longeant. On suit de l'œil le pays neuf, la terre propre, les pierres mieux polies par l'ombre du matin, puis les nuages sèches. Près des rayons tordus, d'autres astres se dressent, montent de l'eau, des rochers écumeux qui soufflent. Et tout change de place. La cabane est venue au levant. La pointe au cap levée derrière les ombrelles. On ne voit que le jour. Les maisons disparaissent, les arbres s'évaporent. Derrière le remblai, le claquement des mains. On entend tous les bruits, mais les yeux sont éteints. Le feu grille l'atmosphère et la peau de la terre craque. Le cheval décharné traverse le tunnel et la montagne siffle, la queue perdue au bord des cils humides de la mer, sous les pattes de cet animal de terre mouvante. L'eau circule luisante et tiède, pendant que les plantes se dressent dans les replis des roches, que les lames s'enflamment et que le vent qui sort des tuyaux des machines, des cheminées d'usines, des soutes des navires, plus noirs, plus lourds, soulève la poussière qui va se figer dans les endroits humides, en pyramides, en cercles mosaïques ou en simulacres de chaînes montagneuses irréelles, en cendres de cigares. Puis la fraîcheur revient avec le soir qui cache l'incendie. Les voyageurs se promènent en noir sur la jetée, sous le reflet luisant qui entoure leur tête, sur les pierres brûlées qui retiennent la peau. Elles font partie de l'eau, elles continuent le corps. Et les poissons battent le feu de leurs nageoires à travers le sillage où bouillonne l'acier. Les étoiles prennent des formes de méduses, de poissons aveugles de matière grasse, et un homme, un seul, demeure au bout du port. Il tient sa tête détachée entre ses mains et rit plus fort, tandis que la mer aux sanglots de sa gorge se calme et se balance. Ô grand phare ! C'était un poème tiré d'un recueil de 1922 qui s'appelle « Cravate de chanvre ». Si l'on cherche à établir une veine commune entre Reverdy et ses amis peintres, il y a chez lui, comme chez eux, cette attention portée à l'univers du quotidien, aux choses plus qu'aux êtres, avec une appréhension presque tragique du réel. Ainsi, la lampe revient très souvent chez Reverdy, comme un havre pour échapper à l'ombre. Il est aussi souvent question de murs, de fenêtres et de portes, sans que ces éléments soient traités de façon réaliste, Et c'est justement de ce décalage avec le réel que naît le mystère qui enveloppe la poésie de Reverdy. Un peu de la même façon que les éléments composant les toiles cubistes nous interrogent en se distanciant du réel. Je voudrais ici citer Gilles Presnitzer qui dit ceci dans son article sur Pierre Reverdy. Tout en impression fugitive, sa poésie semble rester la patte en l'air, figée par ce qu'elle seule a vu et que nous ne voyons pas encore. Ce descendant d'une lignée de tailleurs de pierre savait ce que voulait dire le geste juste, le geste sobre, le geste d'éternité. Son père lui avait appris le vent dans la montagne, la lecture et l'écriture. Il connaissait le poids du pain, le poids des choses, la difficulté de l'amour. En 1926, Pierre Reverdy quitte Paris pour s'établir à Solesmes, dans la Sarthe, à l'ombre de la célèbre abbaye bénédictine. Il a 37 ans. Il ressent alors un besoin de retour à la vérité de la nature et de la conscience. Plus qu'une conversion au catholicisme, c'est pour lui une retraite spirituelle qui durera jusqu'à sa mort en 1960. Il est emporté par une foi dont il finira d'ailleurs par douter, d'où une certaine déception qui le rendra amer dans la fin de sa vie. Ainsi, ce pas vers Dieu sera en même temps un pas de recul devant la vie. Il recevra cependant de nombreuses visites, voyagera quelque peu et restera surtout en lien par la correspondance avec ses amis peintres qui vont illustrer ses recueils de leur lithographie. Pendant plus de 30 ans, il va mener une vie de plus en plus sédentaire et on sent clairement son angoisse dans le texte qui vient, appartenant au recueil « La balle au bon » de 1928. Suivront trois poèmes tirés d'un recueil de 1929 intitulé « Flaque de verre ». Un homme fini. Le soir, il promène, à travers la pluie et le danger nocturne, son ombre informe et tout ce qu'il a fait amer. À la première rencontre, il tremble. Où se réfugier contre le désespoir? Une foule rôde dans le vent qui torture les branches et le maître du ciel le suit d'un œil terrible. Une enseigne grince, la peur. Une porte bouge et le volet d'en haut claque contre le mur. Il court et les ailes qui emportaient l'ange noir l'abandonnent. Et puis, dans les couloirs sans fin, dans les champs désolés de la nuit, dans les limites sombres où se heurte l'esprit, les voix imprévues traversent les cloisons, les idées mal bâties chancellent, les cloches de la mort équivoque. Résonne. Dehors. Des chemins détournés, des villes basses, d'où viennent des bruits sourds, passent les taillis sombres contournant les remparts. Les pierres bleues couvertes de sueur luisent entre la pâte épaisse de la terre au courant de la peur. Tous les doigts, toutes les feuilles d'arbres, toutes les paupières remuent. Les prunelles, à travers les rayons du ciel, sont à l'affût. Les ailes passent. Il y a aussi des cortèges minces qui passent et vibrent sous l'humidité entre la voûte et les flaques glissantes du soir d'été. Les étoiles remuées au fond de la corbeille, les vers luisants piqués aux feuilles de la treille, tous les yeux attachés au fil qui coule la nuit, la route décidée à travers tous les plis et la voix qui va sans qu'on la craigne. Des passes du veilleur aux gouttes de rosée qui luisent sur la plaine. Thank you. une tache sur la nuit. Celui qui descend parmi les avalanches, derrière les toits blancs et les arbres qui plient, qui se regarde, s'arrête, étend son bras jusqu'à la paroi de verre qui est peut-être la seule ligne courbe de l'infini. Celui-là, le corps et la tête et l'âme dans l'espace, tout ce qui dure encore et traîne sur le soir. Les mots qu'on dit au fond, le bruit confus qui monte, on entend ceux qui parlent à travers les rayons. La fumée à cheval sur l'arête, l'oiseau qui sort la nuit. Tout est plus grand dehors. Les ombres où d'autres formes tombent, les lumières du ciel, la route autour du monde. L'homme seul, plus petit. L'homme aux étoiles. Une lampe dans chaque main. D'un bout de la chaîne aux étoiles. Les fenêtres bleues du matin, le toit verni et l'escalier qui descend plus bas que la toile. Car il y a la mer entre le mur et l'homme, et la nuit dépliée qui arrête le bruit. Il y a le bateau blanc qui écarte les lames et l'aile du soleil qui partage le vent. Mais surtout, le front troué par les épines, le cœur d'où sort la flamme et les yeux éplorés. Le regard frappe au ciel et la porte qui s'ouvre laisse entrevoir l'espace où remuent les formes mortes sur les chemins tracés par un doigt lumineux. Les arbres du jardin fermé sont sur la grille, les pointes du signal à côté de la mer, les deux battants ouverts sur l'horizon qui grince, le jour lâché s'évade et piétine les ombres, les hommes, les étoiles tombées sur le revers. Toujours l'amour. Sous les lueurs des plantes rares, les joues roses des cerisiers, les diamants de la distance et les perles dont elle se pare, sous les lustres des flaques tièdes, à travers la campagne hachée, à travers les sommeils tranchés, à travers l'eau et les ornières, les pelouses des cimetières, à travers toi, au bout du monde. Le monde couru pas à pas, ton amour sous la roue du soir, à peine la force de ce geste de désespoir, à peine l'eau ridée sur le cours de ton sein, contre le parapet fragile du destin. J'aime ces flocons blancs de la pensée perdue dans le vent de l'hiver et le printemps mordu. Mon esprit délivré de ces chaînes anciennes et que la rouille a dénouées pour me serrer plus fort, aujourd'hui, dans les tiennes. Espace. L'étoile échappée. L'astre est dans la lampe. La main tient la nuit par un fil. Le ciel s'est couché contre les épines. Des gouttes de sang claquent sur le mur. et le vent du soir sort d'une poitrine. Les deux derniers poèmes proviennent d'un recueil intitulé « Source du vent », paru lui aussi en 1929. Quant à ceux que vous allez entendre maintenant, on peut dire qu'ils sont hantés par la mort. Je les ai choisis dans un recueil de 1930 qui s'appelle « Pierre blanche ». Mémoire. Quand elle ne sera plus là, quand je serai partie, là-bas où il peut aussi faire jour, un oiseau doit chanter la nuit, comme ici. Et quand le vent passe, la montagne s'efface, les pointes blanches de la montagne. On se retrouvera sur le sable, derrière les rochers. Puis plus rien. Un nuage marche. Par la fenêtre passe un cri. Les cyprès font une barrière. L'air est salé et tes cheveux sont encore mouillés. Quand nous serons partis là-bas derrière, il y aura encore ici quelqu'un pour nous attendre et nous entendre. Un seul ami, l'ombre que nous avons laissée sous l'arbre et qui s'ennuie. Les yeux inconnus. En attendant, sur la chaise où je suis assis, la nuit, le ciel descend. Tous ceux à qui je pense, je voudrais être au premier jour de mon enfance et revenir, m'en aller de l'autre côté pour repartir. La pluie tombe, la vitre pleure, on reste seul, les heures meurent, le vent violent emporte tout, les yeux se parlent sans se connaître, et c'est quelqu'un qu'on n'aura jamais vu qu'une seule fois dans sa vie. Toujours le même. Sera-t-il là comme toujours, ce soir ? La route enjambe la forêt, on avance, le bout des arbres se balance, on craint son ombre et tout ce qui se cache au bord des fossés. Au ciel, un œil vient de s'ouvrir, une autre lumière pâlir. Dans la chambre sans lampe, on essaie de dormir. Une seule fenêtre garde la nuit. La lueur qui te suit tremble comme sa silhouette est grande. Le vent dévisse les étoiles. On entendait quelqu'un se plaindre derrière le buisson où elles viennent s'éteindre. Maintenant, la foule est partie en ne laissant que la poussière. Les derniers ne s'en allaient pas et moi, je suis restée derrière. Il est là. On n'entend rien parce qu'il ne bouge pas. Les autres passent en riant. Mais lui s'agenouille en pleurant. On avait oublié qu'il était mort. Reflux. Quand le sourire éclatant des façades déchire le décor fragile du matin, quand l'horizon est encore plein du sommeil qui s'attarde, les rêves murmurant dans les ruisseaux des haies, quand la nuit rassemble ses haillons pendus aux basses branches, je sors, je me prépare, je suis plus pâle et plus tremblant que cette page où aucun mot du sort n'était encore inscrit. Toute la distance de vous à moi, de la vie qui tressaille à la surface de ma main, au sourire mortel de l'amour sur sa fin, chancelle, déchirée. La distance parcourue d'une seule traite sans arrêt, dans les jours sans clarté et les nuits sans sommeil. Et ce soir, je voudrais, d'un effort surhumain, secouer toute cette épaisseur de rouille, cette rouille affamée qui déforme mon cœur et me ronge les mains. Pourquoi rester si longtemps enseveli sous les décombres des jours et de la nuit, la poussière des ombres? Et pourquoi tant d'amour et pourquoi tant de haine? Un sang léger bouillonne à grandes vagues dans des vases de prix. Il court dans les fleuves du corps, donnant à la santé toutes les illusions de la victoire. Mais le voyageur exténué, ébloui, hypnotisé par les lueurs fascinantes des phares, dort debout. Il ne résiste plus aux passes magnétiques de la mort. Ce soir, je voudrais dépenser tout l'or de ma mémoire, déposer mes bagages trop lourds. Il n'y a plus devant mes yeux que le ciel nu, les murs de la prison qui enserraient ma tête, les pavés de la rue. Il faut remonter du plus bas de la mine, de la terre épaissie par l'humus du malheur, reprendre l'air dans les recoins les plus obscurs de la poitrine, pousser vers les hauteurs où la glace étincelle de tous les feux croisés de l'incendie, où la neige ruisselle le caractère dur dans les tempêtes sans tendresse de l'égoïsme et les décisions tranchantes de l'esprit. Ce texte en prose fait partie de « Ferraille » paru en 1937. Nous n'aurons jamais pu trouver de place au soleil qu'en nous-mêmes, disait Pierre Reverdy. Ou encore, j'ai écrit comme on s'accroche à une bouée. Et on a effectivement l'impression, à la lecture de ces textes, qu'il y avait en lui une blessure profonde. Le condamnant, dit Gilles Joinard, au statut d'itinérant figé, lui qui restera sa vie durant en deuil de Moussoulins, le royaume perdu de son enfance, Moussoulins qui servit de lien, de continuo à ses éclats d'instant, simultanément saisis, qui constitue le sujet explicite et l'art singulier de Pierre Reverdy. C'est donc de cette blessure qu'est née et a pris corps sa douleur, son silence et sa colère, parfois, que Louis Aragon décrivit en ces termes. Il y avait dans ses yeux noirs de Reverdy un feu de colère comme je n'en ai jamais vu nulle part, peut-être les sarments brûlés au milieu des vignes de la nuit. René Char, quant à lui, résume de façon très poétique le personnage. Celui-ci dit les mots des choses usagères, que les balances du regard ne peuvent avec exactitude peser et définir. Leur mouvement dépourvu de sommation continuellement nous ramène aux trois marches d'escalier d'une maison, aux lampes douces, gravies un soir de pluie par ce convive essentiel. Pour terminer cette émission, je voudrais vous lire un extrait d'un de ses derniers poèmes, « Sable mouvant », écrit en 1959, un an avant sa mort, qui fut ensuite illustré par Picasso, l'ami de toujours, un texte qui fait figure de testament poétique. La pensée redescend de ses plus hauts étages. Il n'y a plus de ressort. Une vapeur sacrée envahit le paysage. Je veux dire que la mort a déjà pris presque toute la place dans la page. Et comme le vent du soir crie de plus en plus fort, je ne saurai jamais ce que j'aurais dû dire, ni ce que j'aurais fait en dehors du délire. À présent, tout se tait. La passion refroidie lentement se retire. Du bon ou du mauvais, du meilleur ou du pire, il ne reste pas de regrets, de soubresauts, de songes, de tentatives avortées, de grimaces ou de mensonges. Car il n'y a rien, au fond plus transparent des choses, qui vaille le mal qu'on se donne pour en dire la vérité, puisque le néant même dans sa gangue d'éponge est encore plus surfait. Le vent se tait. La voix se tait. Cette voix sans timbre, sans couleur, sans aucune vibration d'aucune sorte. Ces mots qui n'ont ni forme ni saveur, comme les fruits les plus exquis sur une langue sans papille, et qui viennent pourtant inscrire en mon esprit les signes lumineux, obsédants et précis, comme les inscriptions sacrées en langue morte. De cet effondrement de l'être conscient, il reste la façade du palais aux mille rides où glisse le coin d'un sourire dans la rature éblouissante du présent, quel que soit le moment. Où dire et ne pas dire soulève dans la coupe le même tremblement. De ces grands coups de vent qui soufflent les cervelles, de celle qui tient bon à celle qui chancelle sous l'effort d'un suprême élan. Pour connaître, pour aimer, pour être, pour savoir, savourer la vie, savoir vivre et mourir dans la même tempête, d'un même glissement et sur la même ligne. Dans cet espace nul qui sans cesse recule, plus sombre au verso du néant. Ce néant auquel je faisais allusion tout à l'heure. Et d'ici là, vous n'aurez même pas le temps de savoir qui rit ni qui pleure. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouverai avec plaisir le jeudi 15 février. D'ici là, je vous invite au nom de Voix Mêlée à nous rejoindre le jeudi 25 janvier au Temps des Noyaux à partir de 20h pour une lecture musicale des textes du poète Zeno Bianou. À bientôt.
ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.